Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle bulle d'histoire sur Art District. C'est une bulle d'histoire très particulière parce qu'on va pas forcément parler de bande dessinée, on va parler de romans photo, qui est une vieille passion pour moi, mais que je vais essayer de vous faire découvrir. Je vais vous faire découvrir le roman photo contemporain et je suis avec Julie Chapalaz. Bonjour Julie.
Bonjour.
Tu es l'autrice de La déflagration des buissons. Titre absolument génial, tu vas nous expliquer un peu plus tard pourquoi ça s'appelle comme ça.
Ouais,
mais avant de commencer, question traditionnelle de toutes les bulles d'histoire, qui es-tu ?
Ah, ça c'est une bonne question. La première image qui me vient, c'est que j'ai l'impression d'être un ours avec une peau de femme.
Bah, c'est bien déjà,
ouais.
C'est un bon début.
Voilà, c'est l'image qui me vient. Après, plus concrètement, je me sens comme un artiste multiple, ça veut dire que j'ai travaillé longtemps dans le spectacle à concevoir des décors et des images, on va dire, en trois dimensions. Donc à faire de la scénographie, à créer des accessoires et des masques. Et puis à côté, j'ai toujours dessiné, fait de la gravure et développé aussi tout un travail personnel qui trouve naissance aussi, notamment dans ce livre avec la déflagration des buissons.
Alors tu dis que tu es artiste, on va dire, en général. Qu'est-ce qui t'a amené vers le roman photo et pourquoi avoir choisi ce support pour t'exprimer?
Alors, j'ai toujours adoré faire du photomontage et, on va dire, manipuler un peu les images pour rendre la réalité plus drôle. Donc, il y a quelques années, j'ai entendu l'émission de Grégory Jarry sur France Culture, dont le sujet était le roman photo, et dans laquelle il a fait un appel à auteur. Et je l'ai contacté un peu comme ça, sans avoir vraiment une idée derrière la tête, mais avec un intérêt certain pour l'édition et l'objet livre. Et puis voilà, on s'est rencontrés et puis une collaboration s'est mise en place.
Alors cet éditeur, je ne sais jamais comment on prononce, c'est Flubble.
Flubble.
Flubble. Ouais. C'est un éditeur très particulier qui a une véritable ligne graphique et une ligne éditoriale très, très bien définie, mm-hmm. Ce qui n'est pas forcément très courant dans le monde de la bande dessinée.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre le roman photo et la bande dessinée ?
En tout cas, pas comme je l'ai traité. Non. Je trouve qu'il ne devrait pas y en avoir parce que... c'est une bonne question. Non, de mon point de vue, non.
Non, parce que c'est des cases, des images, des bulles.
Oui,
c'est un art séquentiel.
Un rythme, c'est une manière de réfléchir des planches, des couleurs.
Alors, est-ce qu'il y a une différence ?
Bah oui, il y a une grosse différence, c'est le son quand même. Hein. Le son et le... Oui, après c'est une manière de réfléchir les découpages qui se ressemblent, mais il y a quand même une grosse différence avec le son. Ouais. Et puis, on ne peut pas traiter vraiment des longueurs en roman photo. Je pense que faire du Sergio Leone en roman photo, ça serait difficile.
En t'écoutant, je me pose une question, est-ce qu'on pourrait jouer ton roman photo ?
En film, par exemple ?
Ou en théâtre, ou en pièce radiophonique, est-ce que ça pourrait... C'est une question qui peut paraître idiote, mais qui me vient comme ça.
Ah, c'est marrant. Pourquoi pas une pièce radiophonique ou alors une animation, comme une animation stop motion, par exemple. C'est vrai que moi, j'entendais beaucoup des sons dans ma tête en concevant le livre, en fait. Donc j'avais plus des visions filmographiques. Et justement, avec l'éditeur, il y a eu un gros travail de recoupe là-dedans, parce qu'il y avait beaucoup de longueur et de choses qui devenaient trop anecdotiques par rapport à la masse du récit, quoi.
C'est drôle ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand on lit La déflagration des buissons, c'est une bande dessinée, c'est un roman photo très, très sonore. On est immergé dans des ambiances sonores, on ne les entend pas.
Ouais.
Ou on se les imagine, en fait. On se fait ses propres ambiances sonores. Et moi, j'ai été, à chaque fois qu'on passe d'une scène à l'autre, on entend vraiment les bruits.
Ah, c'est chouette, ça.
Donc, il y a les fourmis, les tronçonneuses.
Ouais.
C'est assez bruitiste, comme
ouais.
Roman photo.
D'accord. Organique, en tout cas.
Organique, oui. Ouais, bruitiste,
bruitiste, c'est une bonne idée, ouais.
Ouais,
tout à fait.
Donc, un roman photo, c'est beaucoup de travail. Une bande dessinée aussi, mais un roman photo, c'est beaucoup, beaucoup de travail.
Ouais.
Comment on fabrique un roman photo ?
C'est vrai qu'il y a plusieurs étapes, en fait. Donc, il y a la conception du synopsis, après du storyboard. Et puis, pour ma part, pendant le dessin du storyboard, j'ai vraiment essayé d'imaginer comment j'allais m'y prendre pour faire mes prises de vue. Donc, dans mon cas, vu qu'il y a beaucoup de photomontage et des effets un peu spéciaux, puisqu'il y a des animaux qui sont présents, qui deviennent des personnages, que... j'ai des décors que j'avais pas forcément à portée de main. J'ai vraiment réfléchi en dessinant à qui j'allais demander de jouer quoi, où est-ce que j'allais prendre mes photos, contacter un parc animalier pour photographier des ours, par exemple. De garder en tête cette image du concret de comment fabriquer. Et dans mon cas, je pense qu'aussi ça m'a cadré. Voilà, je pense que je suis souvent dans mon travail, j'essaie de trouver une espèce de contrainte qui va me cadrer parce que sinon les possibilités sont trop vastes.
Il faut faire un casting aussi parce que le roman photo, il y a des différences de la bande dessinée. Bande dessinée, on manipule des personnages. Là, on manipule entre guillemets des véritables personnes.
Oui, complètement. Et je pense que le mot manipuler, pas au sens mauvais, est tout à fait exact.
On est marionnettiste, quoi.
Ouais, c'est ça. Je voyais vraiment les personnages comme des images, en fait. Donc, j'avais pas du tout envie d'être dans une direction d'acteur psychologique, mais plutôt vraiment visuel, quoi. À la manière d'un film muet, par exemple. Mais c'est vrai que j'ai vraiment pensé à qui allait jouer quoi. Et je pense que, par exemple, si Edgar, donc le personnage principal qui est Xavier, n'avait pas été d'accord de jouer, peut-être l'histoire aurait été différente ou le personnage aurait été un peu différent. Pas tant dans le sens qu'il s'inspire de sa personne, mais que j'avais en tête toutes les expressions qu'il pouvait faire, le visuel qu'il représentait.
Oui, c'est ça, parce qu'il joue, mais il joue en... Il joue, tous ces acteurs, mais il joue en arrêté quasiment, à chaque fois.
Ouais, complètement. D'ailleurs, même pendant la prise de vue, ça paraissait très factice. Il y en a au début qui étaient très déroutés, parce que... en fait, tout est très exagéré et des fois une expression, par exemple, on est sûr qu'on est une expression fâchée et en fait, finalement, en photo, ça sort comme de l'étonnement. Donc en fait, il y avait toute une gamme à trouver comme ça d'expressions pour bien que ça retranscrive ce que le personnage vit à ce moment-là, quoi.
Et sur quel critère tu choisis tes acteurs ? C'est justement sur cette capacité à pouvoir jouer arrêté, entre guillemets ? Où il y a d'autres critères, je sais pas, c'est peut-être des copains, des copines,
il y
a peut-être.
Ouais, alors il y avait aussi le plaisir de passer un moment ensemble, dont on se dira, ça serait sympa de voir cette personne, mais aussi surtout, je pensais vraiment à déjà au fait si pouvait être photogénique. Justement, il y a des gens qui sont très beaux, mais en fait en photo, ça, ils sont pas très expressifs ou pas beaux, enfin ou je sais pas en fait, mais. Pour dire que j'ai vraiment essayé de penser à ça, en fait, à des personnes qui physiquement correspondent un peu à ce que je cherchais, mais aussi qui aient cette plasticité, en fait, dans le visage.
Alors, il faut qu'on parle de cette histoire qui est une sorte de conte. Moi, j'ai vu ça comme un conte.
Ouais, une sorte de conte initiatique ou de voyage, ouais,
de
tout
voyage.
À fait.
Ouais. La déflagration des buissons, pourquoi ce titre ? Qu'est-ce que ça signifie ? Si ça signifie
alors,
quelque chose.
Oui, c'était vraiment un titre difficile à trouver. Qui a été source d'une grande angoisse à la fin du travail. J'avais pas du tout pensé que ça pouvait être quelque chose de compliqué. J'ai assommé tout mon entourage avec ça, quoi.
Donc, il n'y a pas tellement de buissons, en plus.
Non, alors, c'était plutôt pour l'aspect végétal. Alors, la déflagration, c'est un mot qui m'a tout de suite beaucoup plu, parce que, finalement, le livre résonne un peu avec cette idée d'un personnage qui... c'est comme s'il reçoit un petit choc, et puis qu'il y a toute cette... onde de choc qui va faire qu'il se met en route, quoi, faire quelque chose d'autre. Et puis il y a ce dessin des cernes de bois, en fait, qu'on voit souvent dans le livre, qui est aussi un peu comme une onde, aussi, qui est une chronologie, mais aussi une onde de choc. Et puis j'aimais bien l'associer avec justement un élément végétal, puisque la nature est présente dans le livre.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire ? Parce que c'est une histoire, à la fois, quand on lit, très simple.
Oui.
Et en même temps, évidemment, très compliqué, sinon ça serait pas intéressant.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous faire le pitch, le mot est pas beau, mais en tout cas nous raconter l'histoire, le début de l'histoire et comment ça commence et...
Ouais, alors donc c'est on suit un personnage qui s'appelle Edgar, qui vit dans un monde, on va dire, un peu dystopique, où les gens s'endorment à tout bout de champ, donc de manière imprévue, donc ils ont une incapacité à créer des relations entre eux. puisqu'ils perdent la mémoire d'un sommeil à l'autre, en fait. Donc, on peut imaginer qu'ils revivent tout le temps la même situation, donc ils tournent en boucle, ou qu'ils n'arrivent pas à aller plus loin dans une relation, hein, quelle qu'elle soit. Et donc, on commence dans cette atmosphère, en fait, comme ça. Et donc, ce personnage, à un moment donné, en fait, a une espèce d'intuition, et il tombe sur un objet qui sont les lunettes, qui sont identiques aux siennes. Et du coup, il se persuade qu'il doit chercher son frère jumeau. Voilà, donc ça devient une quête, mais aussi une motivation pour lui pour bouger, pour se dire maintenant, il faut que je trouve une solution, c'est arrêter de dormir. Et donc, ça le pousse hors de ce monde-là pour en découvrir d'autres.
Donc, il va découvrir plein de mondes différents. En tout cas, peut-être pas forcément des mondes, mais il va découvrir des gens.
Des gens et des aspects du monde qui l'entoure, en fait, qu'il ignorait, en fait.
Oui, totalement.
Ouais, c'est ça.
Bon, on va pas tout raconter parce que c'est... Ouais. Voilà, l'intérêt, c'est justement de découvrir à chaque fois tous ces mondes qui s'enchaînent. Ouais. Mais il y en a quand même quelques-uns dont il faut parler.
Oui.
Il y a ce fameux éleveur de fourmis.
Oui.
Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire, cet éleveur de fourmis ?
Alors, du coup, il rencontre plusieurs types de personnages qui ont trouvé des manières de rester réveillés dans ce monde-là. Donc, ils sont un peu comme des possibilités, en fait, ou qui émettent des solutions ou des idées pour... c'est pas des solutions, mais des options, ouais, dans ce monde-là. Donc, Max, le mangeur de fourmis, c'est un personnage qui a une passion pour les fourmis rouges et qui adore les manger parce qu'elles frétillent dans son corps et qu'elles le maintiennent éveillé. Et qui a une idée que pour lui, il faut arriver à l'explosion de ce monde pour en créer un autre. Voilà, c'est son option.
Les autres personnages très importants dans l'histoire,
ouais.
C'est une sorte de je sais pas comment les définir, un troupe d'Amazones bûcheronnes.
Ouais, tout à fait, ou une forme de confrérie de bûcheronnes.
Dont le but est de raser la forêt.
C'est ça.
Ce qui est assez troublant.
Oui.
Un peu contre-productif.
Ouais, tout à fait.
Mais pourquoi faut-il raser des forêts? Dans ton histoire, évidemment.
Ouais. En fait, je me suis beaucoup inspirée en fait, du bûcheronnage au début du 20e, fin du 19e, 20e, qui est décrit dans un livre qui s'appelle L'Arbre d'Or, en fait. Et cette idée, en fait, que les bûcherons avaient une mission, c'était d'enlever tout cet aspect organique que représentait la forêt, c'est-à-dire du trouble, de l'humidité, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est vicieux dans nos vies. Et en fait, j'ai bien aimé reprendre cette idée aussi au jour d'aujourd'hui où on parle tellement d'écologie, de nature. Et aussi rendre paradoxal, des fois, cette idée de combat, on est sûr de combattre un truc, puis en fait, on est en train de le détruire. Enfin, j'aimais bien aussi cette espèce de mouvement contraire qu'on peut avoir en soi-même ou en groupe, en fait, voilà.
Oui, c'est aussi un groupe, c'est le seul cas dans le livre, c'est une espèce de groupe qui a un combat féministe,
ouais.
Hyper violent, parce qu'il s'attaque à des armes qui ne peuvent pas vraiment se défendre. Quoi.
Tout à fait.
Donc, pourquoi avoir fait de ce groupe un groupe finalement très violent, presque... Moi, je les ai vus comme des terroristes.
Oui, 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 ils ont un côté comme ça, complètement extrême, en fait. Ça leur donnait aussi un aspect, un caractère, et puis pareil en fait, je sais pas comment dire, c'était aussi pour montrer que des fois à l'excès en fait les choses sont un peu effrayantes, quoi.
Donc elles ont des sangsues, on va parler des animaux après, donc on va expliquer pourquoi elles utilisent des sangsues, en fait ça les tient éveillées, évidemment.
C'est ça, c'est une autre possibilité de rester éveillée.
On va parler des animaux après. Il y a un troisième personnage qui est un ours.
Oui.
Donc tu nous as parlé des ours quand tu t'es présenté.
Oui.
Pourquoi avoir choisi un ours qui a un métier particulier en plus?
Oui.
Est-ce que tu peux nous parler à la fois de l'ours et du métier de cet ours?
Alors, l'ours, c'est un peu... Je dois dire qu'après, l'histoire s'est un peu faite en... J'avais des intuitions d'image. Et je sais pas, l'ours m'est apparu comme une évidence. Et puis après, en me documentant sur l'ours et le rapport que l'homme a à l'ours, et en allant photographier des ours, j'ai trouvé que ça prenait beaucoup de sens. Parce que c'est un animal qui rappelle beaucoup l'humain, déjà par son comportement, sa physionomie, on va dire, et puis son histoire, en fait, ça a été depuis longtemps le pendant, on va dire, sauvage de l'homme, en fait. C'est pour ça qu'il a été banni de notre culture. Et c'est vu aussi comme une espèce de chaman. Donc c'est vrai qu'il a un rôle un peu comme ça dans sa relation au personnage principal. Et cet ours est dendrochronologue. Dendrochronologue, donc ça veut dire qu'il peut lire dans les cernes du bois. il peut lire des tas de choses utiles, comme le... Donc les cernes du bois représentent le temps de croissance de l'arbre, et suivant le dessin en fait de ces cernes, on peut définir ce qui s'est passé dans la forêt, ce qu'a vécu l'arbre, ou ce qui s'est passé dans l'environnement de cet arbre et de cette forêt. Voilà. Et du coup, c'est vraiment une image qui m'a frappée et que j'ai associée immédiatement à l'image de l'empreinte digitale de l'homme. Voilà, c'était vraiment les images du début de l'histoire. C'est ce qui m'a mis sur la piste de cette histoire.
Ouais. Oui, c'est très, enfin, graphique, c'est le mot idiot, mais ouais. Effectivement, quand on voit les images, ça saute aux yeux entre les empreintes digitales. Ouais. Effectivement, ce temps en expansion permanente, même si on les coupe, en tout cas, plus les arbres sont gros et plus il y a de traits, plus il y a de choses qu'on peut lire.
Oui, ouais, c'est ça. Et du coup, pareil... Je me suis dit, il faut que je comprenne mieux quel est l'enjeu de la dendrochronologie. Donc, mis à part lire des manuels en ligne, j'ai contacté un labo en fait d'un musée d'archéologie en Suisse, à l'Athénium, et en demandant aux dendro-archéologues si c'était possible d'aller déjà aussi faire des photos dans son labo, mais aussi qu'il m'explique un peu mieux son boulot. Et je suis tombée sur quelqu'un d'hyper sympa. Un peu ours aussi, et qui m'a dit, mais viens faire un stage de 3 jours ou une semaine, comme ça tu vas voir ce que je fais. Donc je suis allée là-bas, et voilà, c'était génial.
Donc tu es un bébé dendrochronologue.
C'est ça, ouais. Et du coup, voilà, c'est vraiment une technique qui est utilisée énormément en archéologie aujourd'hui, et qui est très très fiable. Voilà, donc ça fait que alimenter ma recherche.
Oui, d'autant que les fameuses bûcheronnes, c'est elles qui fournissent... En échantillon, cet ours,
elle oui, lui c'est ça.
Taille des tranches
oui,
vu qu'elle lui remet des... et lui il peut ensuite faire son travail et lire un peu dans le ça. Passé et même dans l'avenir quasiment.
Complètement. Lui, après, l'ours extrapole, donc il ne se tient pas à cette science exacte qu'on développe aujourd'hui. Il a décidé d'extrapoler ça et d'utiliser ces courbes et cette histoire des arbres pour se projeter dans l'avenir. Voilà.
Alors, il faut qu'on parle des animaux, parce qu'il y a 3 animaux, grosso modo, dans cette histoire. Il y a
ouais.
des fourmis rouges, des sangsues et des ours.
Ouais.
Ce qui n'est pas un trio pas très commun.
Oui, tout à fait.
C'est des animaux qui sont plutôt inquiétants, on va dire, dans l'imaginaire,
oui,
le sens
vrai.
Commun.
Ouais.
Alors que là, ils sont tous très utiles, ils sont tous très sympathiques, et ils ont tous une véritable importance dans la vie des gens.
Oui, oui, oui. Bah, pareil, les sangsues, en fait, c'est un animal qui est ultra bénéfique pour l'homme, sauf que, oui, c'est pas du tout ragoûtant, quoi.
C'est pas forcément.
Mais pareil, en me documentant, je me suis dit, ah, mais ouais, c'est ça, c'est génial, cet animal. Mais j'aime bien les animaux inquiétants, les êtres un peu mal aimés, comme ça.
Tu n'as pas essayé de te mettre des sangsues sur la peau pour voir?
Non, mais ça m'est arrivé d'avoir des sangsues suite à un... avoir trempé mes pieds dans un lac plein de sangsues, mais... Donc oui, j'ai une petite expérience des sangsues, mais c'est dur de s'en débarrasser, ouais.
L'autre particularité de ton livre, je suis en train de l'ouvrir, pour,
ouais.
c'est les couleurs.
Mm-hmm. Ouais.
C'est un livre qui est entièrement travaillé en aplats de couleurs.
Oui.
Il n'y a pas de détails.
Ouais.
Chaque masse est colorée.
Oui.
Et ouais, c'est un principe. Pourquoi tu as choisi ce principe visuel et chromatique ?
Ben pour plusieurs raisons. Ben déjà, esthétiquement, c'est une chose qui me plaisait. Mais je me suis tout de suite rendu compte aussi que je ne suis pas photographe. Je n'allais pas avoir un studio avec pouvoir faire des décors pour créer mes images. Et que c'est peut-être après une dérive professionnelle, mais je trouve que souvent, il y a plein de petits détails et de choses qui n'ont pas d'importance dans l'image. Et j'avais envie de hiérarchiser, en fait, ces images. Aussi, sachant que ça allait être des planches avec plusieurs cases par page, je me suis dit, il faut qu'immédiatement, on puisse identifier, en fait, les univers et les... Voilà, sans s'embarrasser de... Il y a une lampe au lointain, il y a une... Enfin, des tas de petites choses qu'on a sur les photos, en fait... Et puis aussi, d'un point de vue pratique, ça me permettait de ne pas être très exact. Voilà. C'est-à-dire qu'on identifie un monde à une couleur, du coup, j'ai pas besoin d'être dans des raccords images, voilà, comme pour vraiment un travail de photo.
En tout cas, quand on lit, ça, je m'attendais pas du tout à ça. Ça permet d'aller à l'essentiel
dans le
rythme de lecture, en fait.
Ouais, ouais, ouais. Et puis aussi, ça fait voyager les couleurs et ça raconte plein de choses. Donc c'était aussi l'idée de vraiment créer des mondes colorés différents.
Et donc, j'ai aussi enfin la réponse de pourquoi il y a tous ces remerciements à la fin de tas d'endroits.
C'est ça, ouais.
De zoologues,
de muséums d'histoire naturelle, de parcs animaliers, de bûcherons.
Alors j'ai aussi avec moi Inès et Lucie qui sont des attachés de presse de cette maison d'édition et de cet objet très particulier. Vous êtes spécialisés en bande dessinée. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment on parle d'un objet pareil et comment on le défend. Inès ?
Alors, avec Lucie, on travaille en binôme en tant qu'indépendant, donc on a choisi de travailler sur le roman photo après une proposition et avoir rencontré l'équipe de Flubble. Je dirais que peut-être pour travailler sur le roman photo, donc déjà c'est un univers qu'on connaissait pas beaucoup. On avait lu un roman photo, Pauline à Paris, de Benoît Vidal chez Flubble. Ça tombait bien. Et donc on a découvert un vrai univers en se penchant vraiment, en découvrant tout le catalogue, en lisant le catalogue de romans photo de Flubble. Donc déjà, on a découvert tout cet univers qui avait des tournages, des acteurs, des actrices. Et je dirais que on travaille sur le roman photo déjà avec Flubble Love en précisant un contexte particulier. Déjà, ils ont 20 ans cette année, ils publient du roman photo depuis leur début. Et à l'occasion de leurs 20 ans, ils voulaient mettre le roman photo en avant, avec des rééditions, avec des nouveautés. Il y aura une conférence à Angoulême sur le roman photo, des expositions cette année, donc plein de rencontres. Et en dehors du contexte, il y a aussi un vocabulaire peut-être à employer, c'est-à-dire que c'est un médium, un moyen d'expression qui a souvent été réduit au genre romantique de nous deux.
Et c'est important en fait de repréciser tout ça. Et
c'est Lucie qui parle.
C'est Lucie, tout à fait. Et je pense que ce qui a été et ce qui est toujours extrêmement intéressant pour nous en défendant des objets comme le roman photo, c'est que c'est un médium qui ne met pas tout le monde d'accord et on a des réactions extrêmement vives, soit d'adoration, soit de détestation, soit c'est quelque chose que les gens ne connaissent absolument pas, soit ils ont une histoire familiale, personnel avec le roman photo. En tout cas, c'est un objet qui laisse personne indifférent. Et ça, en tout cas, en tant qu'attaché de presse, c'est passionnant de pouvoir parler d'objets comme ceux-là qui ouvrent le dialogue et qui ont une histoire aussi particulière, en fait.
Mais un roman photo comme la déflagration des buissons, on est plus du côté de l'art contemporain, pratiquement, que de la bande dessinée.
Oui, complètement. Oui.
On le présente comme tel, parce qu'on fait aussi la relation libraire, donc on le présente comme tel au libraire. Et puis c'est vrai qu'on a choisi différents angles pour ce premier roman photo donc qui ouvre l'année 2022, année roman photo de Flubble. Et on est parti effectivement sur de la presse, des magazines d'art, ou peut-être aussi
spécialisés
dans la photo. Là, on va avoir des articles dans des magazines de photos, et c'est vrai que ce qui n'avait pas forcément été le cas, donc eux, ils s'ouvrent aussi au roman photo.
Complètement, et en effet, je pense que le roman photo de Julie, particulièrement La déflagration des buissons, permet cet échange et cette diversité des angles, puisqu'on a à la fois toute cette histoire de la fabrication qui est passionnante à raconter, mais aussi ces couleurs que tu as choisies qui sont sublimes et qui attirent tout de suite l'œil, que ce soit en librairie ou les journalistes à qui on a pu en parler. Et puis l'histoire en elle-même, comme vous l'avez expliqué, est extrêmement riche et on rencontre un nombre de personnages tous plus fantasques les uns que les autres. Et notamment les bûcheronnes passionnent beaucoup. Et
l'ours aussi.
L'ours aussi. Et c'est vrai que les lecteurs réagissent extrêmement bien à ça. Donc on a eu la chance d'avoir un objet qui ne nous a pas du tout réduit, oui. Contrairement à ce qu'on peut penser, où ça va être une presse extrêmement particulière, le roman photo, pour une cible très particulière. On a vraiment essayé de l'ouvrir en fait au plus grand nombre en tirant tous les angles. Oui. Et notre propre expérience de lecture, en fait, aussi, avant tout, puisque c'était une découverte pour nous deux. Et ça a été une richesse, en fait, finalement. pouvoir s'approprier ça.
Bon, on peut s'arrêter là-dessus, alors. Une richesse. Je vous remercie beaucoup toutes les trois et Julie, je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Donc, je rappelle le titre, La déflagration des buissons. L'autrice, c'est Julie Chapalias. L'éditeur, pardon, c'est Flobel. C'est 20 euros et ça fait 220 pages, je crois.
C'est ça.
Et donc, à bientôt.
À bientôt, merci.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.